Accès libre avec Luc Fortin.
En près de 10 ans, je pense que c'est la première fois que j'anime un accès libre pendant que se déroule un match éliminatoire pour l'obtention de la Coupe Stanley. Mais c'est pas accès libre qui est pas normal dans ce contexte-ci, c'est que le lundi à midi une, il y a un match entre Caroline et les Rangers. Mais parlons des vraies affaires. 7 septembre, District 31. Ça, c'est important. Jean-Sébastien, pour ou contre District 31?
Est-ce que je suis obligé de me prononcer?
J'ai
entendu parler, mais je n'ai jamais regardé, donc je peux pas être ni pour ni contre, mais c'est tant mieux pour ceux qui sont pour.
Ouais, la question était peut-être mal posée, là, en ce sens. Toi, as-tu hâte au retour de tous ces caporales? Je réfléchissais, quel personnage est mon préféré, puis j'essayais de dire, bon, lequel a jamais contrevenu à la loi? Pas sûr, je n'ai trouvé un. Peut-être Geneviève Bouillette, mais ça fait juste un an qu'elle est là. Aujourd'hui, il sera question, d'abord en rediffusion, d'archéologie, comment l'archéologie peut nous expliquer l'histoire du handicap. Simon Desmeules veut devenir camionneur, lui qui est paraplégique. François nous parle du 600$ qui nous pend au bout du nez, nous personnes handicapées. Et une ligne d'écoute dans le centre du Québec pour les proches aidants. Avec Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, c'est Christiane Campagna qui nous a beaucoup, beaucoup aidé pour faire en sorte que la prochaine heure soit bien nourrie. Christiane qui est en vacances et qui, elle et moi, on a travaillé pour que lundi prochain soit bien garni également. Donc, cette fois-ci, contrairement à juillet, on ne devrait pas vous faire faux bon, et c'est tant mieux. Chantal Bournival, je donne votre titre. C'est quelque chose. Elle est directrice adjointe, assurance qualité, gestion des mécanismes d'accès et soutien à la direction du programme Soutien à l'autonomie de la personne âgée. Vous travaillez pour le CIUS du Centre du Québec et vous êtes avec nous parce que pour répondre à un besoin, il y a eu mis sur pied d'une ligne d'écoute pour aider les personnes proches aidantes d'aînés en milieu, disons, milieu pas familial, là, mais au contraire, comment on appelle ça, milieu de vie intermédiaire, des
oui,
résidences?
Bonjour, M. Fortin, bon midi. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi. Effectivement, on parle d'une ligne dédiée pour les proches aidants qui ont des personnes de leur famille qui habitent soit dans des résidences privées pour aînés ou dans des ressources intermédiaires, donc des milieux vraiment là, dans la communauté.
Est-ce pour répondre à un besoin ou aux questions entourant les droits, les règles et tout là, dans cette situation que l'on souhaite temporaire, ou vous pensez que le service va continuer à être offert une fois la pandémie terminée?
Bien, actuellement, je dirais que le besoin là, qui a été constaté est en lien avec la pandémie actuelle. Beaucoup de questionnements sont présents de la part des proches aidants en lien avec les consignes de notre gouvernement. Mm-hmm. Donc, la ligne téléphonique, la ligne courriel et le site web sont vraiment là pour venir répondre aux questions des proches aidants en lien avec la situation de la pandémie.
J'imagine qu'à une certaine époque, on se questionnait beaucoup sur quand est-ce que je vais pouvoir aller voir ma mère, ma belle-mère, ma belle-sœur. Y a-t-il quand même de l'écoute pour les proches aidants qui ont besoin de ventiler, que ce soit parce qu'ils ne peuvent pas ou ne pouvaient pas voir visiter, ou peut-être des gens avec qui ils vivent? Parce que je comprends que dans ce cas-ci, ce sont, on a parlé de résidence intermédiaire, de résidence privée, mais c'est certain qu'il y a des proches aidants qui vivent avec la personne aidée et qui doivent trouver ça lourd.
Oui, tout à fait. Puis on a la chance en Mauricie et au centre du Québec d'avoir vraiment des organismes en soutien aux proches aidants. Donc, notre ligne qu'on a mis en place au CIUS ne répond pas nécessairement à ce besoin-là, okay, parce qu'il est vraiment bien comblé par les différentes organisations communautaires là, qui sont présentes sur le territoire et qui, qui ont une écoute et qui ont un accompagnement très, très bien ciblé envers les proches aidants.
Et, bon, on peut imaginer, disons, tout l'effort requis pour démarrer un service comme celui-là, ça n'aura pas été plus facile peut-être d'informer les organismes qui déjà répondent au téléphone pour leur donner ces informations-là pour que, justement, ils puissent... Tu sais, tant qu'à se parler, Thérèse, sache que tu peux aller visiter ta sœur et...
Oui, bien, vous avez raison. C'est très pertinent ce que vous amenez. Et on a eu la réflexion là, qui a été faite en ce sens. Par contre, ce que je tiens à préciser, c'est que les consignes au courant de la pandémie sont évolutives. Elles changent rapidement.
Vous avez raison.
Donc, tout dépendant de la situation de la pandémie. Alors, il devient extrêmement difficile d'avoir l'information juste et exacte au temps voulu. Donc, à la ligne des proches aidants, ce sont vraiment des personnes qui maîtrisent l'information et les consignes gouvernementales. Et bien entendu, nos partenaires sont en complémentarité avec nous. Là. Donc, on est aussi en lien avec eux et ils disposent aussi de l'information générale.
Oui, je vous écoute. Puis, je me dis qu'effectivement, que mon idée, ces gens-là auraient été en formation perpétuelle. Là, ça n'aurait pas été très, disons, proactif. C'est quand même une clientèle assez ciblée. Comme clientèle, à qui vous offrez ce service-là? Comment ça s'est précisé? Ça a pris combien de temps avant que quelqu'un se dise « Là, là, il y a trop de questions, il faut trouver une façon de répondre à ce besoin-là? »
Alors, ce qui a été mis en place très rapidement, là, avec le contexte de la pandémie, c'est une ligne d'information et de soutien pour les propriétaires de ces résidences-là.
Ah,
donc, okay. Dès le mois de mars, une ligne a été mise en place. Et avec les semaines de la pandémie, bien, on s'est rendu compte que les propriétaires nous posaient des questions pour les proches aidants. On a eu des questions à la ligne des RPA et des RI de la part de proches aidants et on s'apercevait aussi que différentes questions rentraient par différentes portes au sein de notre FIUS. Mmh. Donc, je dirais que c'est là qu'on a vraiment mis en évidence l'importance de créer une ligne unique. Donc, pour faciliter les choses, pour favoriser l'accessibilité, alors le proche aidant n'a plus à se poser de questions. Il sait qu'il peut maintenant rejoindre quelqu'un par un seul numéro.
Est-ce que c'est le genre de service qui existe dans d'autres régions, dans d'autres CIUS? Pouviez-vous, disons, vous aider d'exemples d'ailleurs?
J'ai pas l'information de savoir si ça existe. Actuellement ailleurs. Donc, on a vraiment mis ça en place en fonction des besoins de notre région, donc pour répondre vraiment là, aux préoccupations là, qui existaient là, au sein de notre population.
Ouais, justement, allons vers ces préoccupations-là, les questions les plus fréquemment demandées?
Je vous dirais que beaucoup de questions en lien avec l'isolement. Donc, est-ce que mon proche qui a été à l'hôpital doit être isolé? Mon proche qui vient dans notre famille, est-ce qu'il a le droit de venir manger? Est-ce qu'il a le droit de venir coucher? Lorsqu'il va retourner dans son milieu, va-t-il devoir avoir un test de dépistage? Est-ce qu'il va devoir être en isolement? Donc, beaucoup, beaucoup de questions en lien avec ces situations-là. On a beaucoup de questions en lien avec les loisirs. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui n'est pas permis? Avec la nourriture qui peut être apportée ou non. Donc, je vous dirais, c'est vraiment des questions très, très concrètes.
En général, lorsque vous ne donnez pas la réponse que l'appelant souhaite entendre, est-ce que les gens sont bien déçus? Est-ce que vous êtes obligé de... C'est, disons, là, comme je parlais tantôt, d'une sorte d'écoute active.
Bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens sont très favorables à la réponse que l'on va donner, puisque ce qu'ils veulent connaître, c'est la vérité. Donc, le proche veut s'assurer que la consigne qu'on lui a donnée ailleurs, bien, c'est celle-là qui devrait être appliquée. Donc, il y a beaucoup de questions pour valider des informations qu'ils ont reçues. Et parfois, je vous dirais, ce qu'on peut être aussi porté à faire, c'est que s'il n'y a pas entente entre ce qu'on explique aux proches aidants et ce qui est appliqué, par exemple, dans une résidence. Alors là, il peut y avoir des démarches qui est faites auprès de la résidence privée pour s'assurer que le personnel applique les bonnes directives de la bonne façon. Donc, on peut être aussi en soutien aux proches aidants pour que ses droits puis ses privilèges puissent être respectés.
J'imagine qu'en mai, là, avant que l'on puisse retourner visiter les gens que l'on aime, on devait commencer à piaffer un peu. Là, on devait être impatient au téléphone lorsqu'on vous appelait puis qu'on espérait avoir des bonnes nouvelles. Vous avez encore là, vous n'avez pas senti ça?
Bien, la ligue a été mise en place que dernièrement.
OK, OK.
Donc, c'est tout récent. En mai, elle n'existait pas.
Ouais.
Et je vous dirais que ce qu'on aurait senti, nous, de la part, parce qu'il y a quand même eu, même s'il n'y avait pas la ligne directe, il y a quand même eu là, des conversations qui ont eu lieu avec des proches aidants, mais on sentait tout le respect envers les règles du gouvernement. Malgré la difficulté que générait l'isolement, on sentait là, que les gens voyaient ça d'un bon œil, la sécurité que les milieux mettaient en place pour éviter là, les éclosions.
Qu'est-ce qui pourrait être... Bon, je sais que, comme vous le dites, là, au cœur, au pire de la pandémie, première étape, vous n'étiez pas encore en fonction, mais qu'est-ce que vous appréhendez s'il y avait une deuxième vague et comment votre service peut-il justement peut-être combler cette appréhension-là?
Si deuxième vague, il y a... il va nécessairement y avoir de nouvelles consignes gouvernementales et c'est là toute l'importance de la ligne. Puisque les consignes vont changer, les proches aidants vont avoir besoin qu'on puisse leur réitérer là, les bonnes informations. Donc, probablement que beaucoup de choses vont circuler, de la bonne information, de la mauvaise intervention, mais on sera là pour vraiment là, pouvoir donner l'information juste à chaque proche qui va nous contacter.
Ouais. Chantal Bournival est directrice adjointe associée au contrôle de la qualité du côté là, de programme de soutien à la direction de programme des aînés du côté du Centre du Québec. Merci beaucoup, beaucoup.
Bien, merci à vous, ça m'a fait plaisir.
Pagliaro, ensuite on regarde avec François Beauregard. Qu'est-ce qui arrive avec notre 100 piastres?
We'll be right back.
Monsieur Poliero sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Jean-Sébastien, toi qui es très musique comme moi, est-ce que une pièce qui se termine comme ça, là, on appelle ça cold, ou disons subitement, là, est-ce qu'on peut faire un fondu quand il répète la même chose 18 fois avant de terminer ou ça se fait pas?
Ça se fait, mais moi je me suis toujours posé la question quand on écoute une chanson comme ça qui se termine par un fondu, oui, mais comment qu'elle finit la chanson?
Oui, mais ça, c'est
un moment donné, en spectacle, ils doivent bien la terminer, la chanson.
Ça,
en studio,
ça.
Ils ont dû la terminer, donc moi ça me laisse... Des fois, ça fait un effet fort intéressant, puis d'autres fois, t'as l'impression que c'est parce qu'ils savent pas comment la finir.
Moi, je pense que le fondu fait en sorte qu'à un moment donné, le producteur fait juste dire « OK, les gars, c'est assez! » Puis là, oups, ça finit n'importe comment. Là, ça finit pas... Voilà. Hey, 600 piastres, quand même pas rien. C'est le 5 juin dernier que le gouvernement canadien a fait part de son intention de mettre à l'avant une mesure de soutien pour les Canadiens en situation de handicap comme moi, comme vous peut-être, ceux qui font face aux différents défis liés à la COVID-19. 600 $ pour nous aider donc à compenser certaines difficultés économiques. Au même moment, le même jour, en fait, une annonce était faite pour dire aux aînés que 300 $ également seraient acheminés vers eux. On en parle avec François. François Beauregard qui, normalement, nous parle d'histoire, mais monsieur est féru. C'est vrai, tu as gagné ta vie à aider les gens à mieux gagner la leur.
Oui, et aujourd'hui, je pourrais te parler de Michel Pagliaro aussi.
Ah oui, hein?
Je suis un fan fini de Michel Pagliaro.
Ah, ben, câline.
Oui, monsieur,
toi.
Quand j'écoutais la chanson avec vous, là,
ouais.
je connais toutes les paroles. Voilà, mais aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé. Tu as mentionné la date...
5 juin. Oui, l'assentiment royal, c'est finalement le 27 juillet. Ça a pris le temps que ça a pris.
Il y a eu une petite saga, c'est parce que le document, la loi qui devait inclure cette mesure pour les personnes en situation de handicap, finalement, n'a pas été accepté aux communes fin juin suite à des manœuvres politiques.
Mm-hmm.
On ne s'étendra pas là-dessus. Ça a été donc représenté au feuilleton de la Chambre des communes fin juillet.
Chance qu'il n'était pas en vacances.
Et l'assentiment a été royal, a été obtenu le 27. Alors, c'est tout récent. Ouais.
Alors, première question, M. Beauregard. Est-ce que c'est 600 $ ou c'est jusqu'à 600 $? Parce que j'ai lu les deux.
C'est 600 $.
OK.
Dans le cas de personne, un aîné en situation de handicap, qui a déjà reçu ou qui est éligible pour le paiement unique destiné aux aînés.
Oui, le 300, là?
Oui, mais lui, il va recevoir un autre 300 pour un total de 600.
OK, il n'y a pas 900.
Non,
okay.
C'est ça. Et puis, s'il a reçu le paiement unique pour les aînés, pour la pension de sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti, pour ça, il y avait une enveloppe de 500 $. Il va recevoir 100 de plus. Alors, le cumul des deux va donner 600.
OK.
D'accord?
Okay.
Alors, c'est pour ça peut-être qu'on entend parler que jusqu'à 600 $, parce que dans certains cas, ça va être une somme qui va arrondir jusqu'à 600 si on a déjà reçu d'autres coups de pouce.
C'est non imposable?
C'est non imposable et en fait, ça nous amène à une question, c'est l'éligibilité pour recevoir ce paiement, entre autres, il faut soit avoir une rente d'invalidité de la RRQ, déjà être pensionné de la RRQ pour une rente d'invalidité ou des pensions de ce genre-là, mais essentiellement, c'est une personne qui a qui détient un certificat de crédit d'impôt pour personnes handicapées.
Okay.
Et certaines personnes handicapées ne réclame pas ce certificat. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées, qui est une mesure qui date d'assez longtemps, est un crédit d'impôt dit non remboursable. Ça veut dire que quelqu'un qui est en situation d'handicap, qui a une situation économique faible, ne recevra pas grand-chose en réclamant ce crédit-là, parce que si la personne ne paye pas d'impôt, on ne lui donnera pas un remboursement d'impôt qu'elle ne paye pas.
Mm-hmm.
D'accord. Alors, il y a beaucoup de gens au Canada qui ont droit, théoriquement, à avoir un certificat déclarant leur handicap et leur donnant accès au crédit d'impôt, mais ces gens-là ne le réclament pas parce qu'ils disent, de toute façon, le crédit d'impôt,
ça ne
donne rien, je ne le recevrai pas.
Ouais.
Mais cette fois-ci, ça vaut la peine parce que vous allez recevoir 600 $ qui ne seront pas imposés du fait que vous avez un certificat de qui vous donne droit au crédit. Alors, même si vous ne réclamez pas le crédit à l'avenir, vous avez jusqu'au 25 septembre pour faire une demande d'un certificat.
Les fameux 60 jours, là.
Ben c'est ça. C'est 60 jours à partir de l'assentiment royal, mm-hmm. donc déjà, il en reste moins que 60. Ouais. Et donc, ça peut permettre à des gens qui, handicapés, en situation de handicap, n'ont pas jusqu'à maintenant, ne se sont pas prévalus du crédit d'impôt pour les raisons que j'ai mentionnées, mais là, ça vaudrait la peine de le faire.
Bon, ça va valoir la peine pour ces gens-là, mais même ceux qui ont un très bon revenu et qui sont en situation de handicap peuvent le réclamer aussi, là. C'est vraiment pour tout le monde, peu importe.
C'est pas calibré au revenu comme d'autres mesures gouvernementales. Quelqu'un qui a droit, qui a un très bon revenu, ben moi, je l'encouragerais à prendre le 600 $ puis à faire un don de charité à un organisme qui aide des personnes en situation de handicap, parce que comme le 600 n'est pas imposable, ben votre 600 de don de charité, il va créer 300 $ de retour d'impôt.
Sinon, donc, moi, je suis prêt à donner mon courriel à la fin de l'émission, là, si les gens ne savent pas quoi faire.
Oui, la Fondation Luc Fortin. Ben,
tout à fait. D'ailleurs, bon, rassure-moi, là, je viens de m'acheter un nouveau SE+, c'est Apple qui est content. Le 600 $ est-ce que je dois aller le chercher au centre-ville avec des pièces justificatives? Est-ce qu'ils vont mettre ça dans mon compte directement?
Pour les personnes qui ont déjà une inscription au dépôt direct pour d'autres
prestations
gouvernementales ou pour des remboursements d'impôts, ça va aussi être déposé directement au compte de banque. Donc, dans la logique de la distanciation, c'est sûr qu'on veut pas que les gens aillent faire la queue au centre-ville, là, ainsi de suite. Alors, ça va être versé directement. À quel moment ça va être versé? On parle de l'automne. Okay. Alors, c'est sûr que ça va être étendu. À l'origine, quand la loi devait peut-être être promulguée fin juin, on parlait d'un paiement début août. Alors, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose en septembre-octobre. Évidemment, il va falloir aussi traiter les demandes de certificats de personnes vivant en situation de handicap, là, comme jusqu'au 25, alors ça va s'échelonner au courant des prochains mois.
Les enfants en situation de handicap, donc ceux qui ont 17 ans peut-être à ce moment-ci, mais qui vont avoir 18 ans d'ici au 25 septembre, peuvent-ils s'inscrire et penser l'obtenir?
Oui, en fait, l'idée, c'est que d'ici le 25, il faut avoir
18 ans.
Si quelqu'un n'a pas son certificat le 26 au matin, là, c'est malheureux, mais ça ne marchera pas. Alors, on peut avoir un certificat si on peut en faire la demande. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées, ça, c'est une autre affaire. C'est sûr qu'une mesure qui s'adresse à une population qui a des revenus inférieurs à la moyenne, en général, ce serait plus efficace si le crédit d'impôt pour personnes handicapées était ce qu'on appelle un crédit d'impôt remboursable, c'est-à-dire que même si la personne ne paye pas d'impôt, les gens qui ont droit recevraient une somme du gouvernement chaque année. Non?
Ça coûterait plus cher à l'État, mais...
Ben oui, ça coûterait plus cher, mais c'est un peu curieux, une mesure... D'ailleurs, il y a eu un rapport fait par un comité du Sénat, mené entre autres par Mme Petitclerc, qui a été déposé en juin l'an dernier, qui dénonçait justement cette situation, qu'un crédit d'impôt destiné à aider les Canadiens vivant en situation de handicap, qui sont c'est un fait établi et facile à démontrer. On a des situations financières moins bonnes que la moyenne de la population. Mais là, de créer quelque chose pour les aider, mais en fait, ça ne les aide pas vraiment. Parce que s'ils ne payent déjà pas d'impôts, ben, ils ne reçoivent pas de coup de pouce. Alors.
Et pendant ce temps-là, on donne...
C'est plus bancal.
Oui, parce qu'on donne des 600 $ à des gens qui sont en situation de handicap, mais qui n'en ont peut-être pas besoin. Donc, on pourrait prendre cet argent-là, faire un Robin des Bois de nous.
Ben,
là.
C'est pour ça que je suggérais à une personne handicapée qui reçoit le 600, qui n'a pas besoin, ben, faites un don un organisme qui va faire du bien, puis vous allez avoir 600 $ de reçu d'impôt. Vous allez pouvoir réclamer, puis vous allez retrouver 300 $ en faisant un don de charité qui est éligible. Alors, finalement, vous allez savoir 300.
François, il me reste moins d'une minute, mais j'aimerais ça parler prestations canadiennes d'urgence, parce que quand j'entends, mon Dieu, Max Wien ou d'autres, on nous dit « Faites attention, ça risque de vous coûter cher lorsque vous allez faire votre déclaration du revenu. » Est-ce que les fameux... la PCU, est-ce que c'est un cadeau empoisonné?
Ben c'est parce qu'il faut pas oublier que ça, c'est une prestation qui est imposable.
Oui, oui, oui.
Alors, si les gens la reçoivent et ne font aucune épargne pour l'impôt qui, éventuellement, va être réclamé là-dessus... Ben, ça va. Il y a des gens qui, au printemps prochain, en faisant leur rapport d'impôt, vont dire « Ah, mon Dieu, j'ai reçu 5 000 de PCU, puis je dois payer 1 000 d'impôt. J'ai pas 1 000 avec moi. »
Oui. Et en même temps, et c'est important de rappeler que ça, c'est pour ceux et celles qui ont vu leur emploi, disons, mis de côté ou arrêté. C'est pas les gens qui sont à cités sociaux ou...
Non. C'est pour les personnes qui ont eu qui ont subi un impact économique direct.
Ouais.
Perte d'emploi, mise à pied, ainsi de suite. Dû à la pandémie. Exact. Là, c'est quand même ciblé.
Ouais. Bon.
Mais c'est comme d'autres choses. C'est un cadeau empoisonné. Il faut se souvenir qu'il y a une partie de cet argent.
Je suis obligé de t'arrêter, mais je te laisse aller dîner. Nous, on fait une pause. On va parler à un camionneur paraplégique après la pause.
D'accord. Merci.
Écoutez Accès libre.
Avec à la recherche Christiane Campagna, Jean-Sébastien Laliberté est à la mise en onde. Mon nom est Luc Fortin et au bout du fil, Simon Desmeules. Simon, j'avoue là, bien candidement, que je ne connaissais pas votre histoire avant tout récemment. Elle est assez intrigante. On parle ici de handicap à toutes les semaines. Étant moi-même aveugle, promis, on ne parlera pas de résilience et de courage, là.
Ce
que j'entends, c'est que vous avez envie de conduire un camion, vous vous êtes arrangé pour le faire et c'est tant mieux, mais c'est quand même intriguant. Pourquoi camionneur lorsqu'on est paraplégique? On pourrait, disons, aller plus confort vers une job de bureau.
Effectivement, puis c'était justement ça que j'avais envie de ne pas faire, une job de bureau, mais j'ai besoin d'une job assise.
Ouais,
donc,
ouais.
Camionneur, c'est dur à battre. Mais en même temps, il y a le côté aventure, il y a le côté voyage, puis il y a quand même un aspect un peu physique, dans le sens que j'ai des rondes de sécurité à faire, j'ai des tâches qui me demandent d'être quand même de bouger un peu. Donc, c'est pas si immobile que ça. Puis il y a le côté, puis dans un environnement dans un environnement plus masculin, un univers d'homme, un univers de travail mécanique, un travail de. C'est ce type d'environnement-là.
Oui. Disons, les obstacles ou les encombrements lorsqu'on est paraplégique et qu'on veut devenir camionneur, là, mis à part peut-être la perception de l'autre, mais je parle au niveau technique, mécanique, au niveau truck stop également, qui sont pas nécessairement tout accessibles.
Ben, la majorité des truck stops et des haltes routières sont un mix des deux, donc autant pour voiture que camion. Donc, rendu là, la majorité, regardez, présentement, je suis à Sainte-Brigitte de Granby.
Okay.
Et c'est un ultramar. Le ultramar, lui, est accessible. Donc, rendu là, ça se fait bien. Mais j'ai des amis qui sont dans le domaine, qui sont dans l'industrie, puis qui font le tour des États-Unis. Et on me l'explique que la majorité, maintenant, des truck stops sont accessibles. Parce qu'il y a des gens qui ont des gros campers, des gros Winnebago, puis... ça arrête dans ce type d'endroit-là parce qu'il y a de l'espace, justement. Donc, il y a ça. Mais pour revenir à la question de côté technique et mécanique, il y a juste eu deux adaptations à faire sur le véhicule qui n'a pas été très compliqué, mais il a fallu que la SEAC s'en mêle parce que c'est un véhicule présentement de l'école qui est adapté. Donc... C'était cette partie-là qui est plus complexe.
Oui, c'est ça, on y reviendra à la Société d'assurance automobile du Québec, mais puisqu'on est là, j'aurais pensé qu'un camion est pas mal plus compliqué à adapter qu'une voiture. Vous me dites pas nécessairement?
Pas nécessairement. Dans le camion, il y a deux pièces qui sont des pièces qu'on peut mettre sur une voiture, qui est pour le gaz, les freins et il y a une boule au volant pour m'aider à tourner parce que j'ai une main sur l'accélérateur. Mais sinon, l'autre pièce, c'est juste un tube avec une vis sans fin à l'intérieur. Puis j'ai un harnais, il me monte, j'embarque dans le camion et voilà. Mon fauteuil, ben là c'est mon prof qui le prend puis il met sa banquette en arrière puis on est parti.
Et ça, ce serait votre partenaire éventuel?
Ben là, c'est mon professeur, fait que non.
Ouais, non, mais éventuellement, là, quand on, tu sais...
Ouais.
Okay.
Quand je vais avoir besoin, la SAC me demande que j'ai pas le droit de conduire tout seul, donc j'ai dit, ben, je vais faire du team. Rendu
ben
là.
Oui, ben oui, je comprends.
À un moment donné, quand je vais avoir besoin d'un partenaire, ben il va devoir comprendre qu'il y a certaines tâches qu'il va devoir faire pour m'aider, pour me simplifier la vie aussi. Là.
Pour ce qui est de, disons, la vanne qu'on doit rattacher ou détacher, ou est-ce que ça, c'est accessible ou?
Ça dépend. Présentement, pour les examens de l'école, Oui, ça peut le faire parce qu'on lui demande, on est à la recherche présentement d'une remorque qui a les attaches qui sont en bas à droite. Et ça se fait. Il faut juste trouver la bonne remorque, okay. Mais ça se fait. Et rendu là, ça, je pourrais très bien le faire. Dans le module que j'ai à faire, le module 8, j'ai une partie arrimage. Ben, la salle que je me demandais si ça devait être un flatbed, ben, une remorque plateforme ou une remorque une boîte fermée. Fait aussi bien prendre une plateforme, puis ben, m'assurer que mon voyage est bien attaché, puis ça, je suis capable de le faire.
Ouais.
Donc, mais il faut se trouver des trucs. Fait qu'au lieu de lancer une chaîne par-dessus mon voyage, ben, je lance la courroie en tissu, puis la chaîne est attachée. Je fais le travail à l'inverse d'un camionneur habituel.
Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans votre situation au Québec, je ne sais pas s'il y en a au Canada. Avez-vous pu justement peut-être échanger sur des expériences communes avec d'autres qui veulent faire le même métier puis qui sont paraplégiques?
Présentement, non.
OK.
J'ai vu des vidéos au Canada et aux États-Unis. Deux camions qui est modifié, puis de la manière que c'est fait, c'est la couchette arrière, et ils ont une espèce de grosse rampe qui sort par une porte, et c'est un peu comme dans les autobus adaptés, le même système. Et moi, je regarde ça, et je trouve ça énormément encombrant, parce que là, ça veut dire qu'on a démoli la couchette au complet, le lit est déplacé, tout doit être refait à l'intérieur, et ça veut dire que ces camions-là sont pour cette personne-là, et c'est un énorme investissement, chose que je ne ferai pas,
ouais.
Je ne peux pas faire, parce que pour moi, ça ferme la porte à beaucoup d'employeurs. Et en même temps, ce camion-là, il n'est pas vraiment revendable. Il devient très complexe. C'est un peu comme une patate chaude.
Je comprends.
Mais en même temps, il est fait pour une personne qui va devoir le durer très longtemps.
Bon,
ça, c'est une vidéo que j'ai vue, mais d'autres camionneurs, dans ma situation, j'ai pas eu la chance d'échanger. Puis au Québec, selon le CFTR, l'école à laquelle je suis, c'est la première fois eux autres qui ont ça là, comme situation.
Parlant vidéo sur Facebook, vous avez justement parlé des embrouilles administratives que vous aviez eues avec la Société d'assurance automobile du Québec. J'imagine que ça s'est réglé ou pas encore?
Oui, ben ça s'est réglé, oui et non. Les embrouilles, c'était que la personne qui s'occupait de mon dossier tombait en congé de maladie. Mais moi, j'attends pour l'école, là. Moi, son
bien
congé
sûr.
De maladie, c'est tellement le dernier de mes soucis. Tu sais, je faisais la joke en disant, c'est sûrement pas qu'une feuille de papier, on peut-tu mettre quelqu'un qui peut faire avancer mon dossier?
Mais t'es véritablement en congé de maladie, c'est ça le
pire? Oui, ah, c'est ça que j'ai appris par la suite.
Ah, ouais.
Et je me sentais mal un peu, ben, j'avais fait une joke, mm-hmm. mais c'était vraiment ça. Et en même temps, j'ai comme gardé là, des paraplégiques pour une classe 1. Il doit pas en avoir des tonnes. Je dois être pas mal tout seul sur son bureau.
Ouais.
Donc, on peut-tu faire avancer le processus? Parce que moi, à ce moment-là, j'étais à l'école. Je le suis encore, là, je fais ma pratique. Mais à ce moment-là, pour moi, il faut que ça l'avance. Pour que l'école puisse faire les adaptations du véhicule, faire les appels d'offres, les soumissions. Tu sais, il y a tout un côté très administratif. Et si la SAAC, ça bouge pas, l'école peut pas avancer. Puis ben moi aussi, ça me
bien
ralentit.
Sûr.
Donc,
bien
c'était
sûr.
Très complexe.
As-tu été difficile de convaincre l'école de vous prendre comme élève?
Oui et non. Ça a été assez simple. Mais en même temps, je voyais une réticence.
Mm-hmm.
Et quand je suis arrivé avec mon idée, j'avais déjà engagé un ergothérapeute. J'avais eu un rendez-vous avec. J'avais un voisin qui était camionneur. Il m'a ouvert la porte de son garage. Comme ça, l'ergothérapeute a pu prendre des mesures, puis prendre des photos, puis voir, OK, dans quoi que lui s'embarquait. Parce que me faire un test d'évaluation physique, de connaître mes compétences et tout, c'est une chose. Et là, quand il est embarqué dans le camion, OK, là, j'ai une bonne image, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que moi, quand j'ai cherché un ergo, et là, ça, c'était un défi, parce que il y a personne qui faisait ça.
Ouais.
Et là, il y a cette partie-là, j'ai monté un dossier, j'ai démontré mon intérêt, je suis arrivé au CFT1, j'ai pris un rendez-vous avec la direction, et là, j'ai eu le directeur adjoint, j'ai eu un professeur, le chef mécano, j'ai eu, il était 12 en dessous de la table.
Ouais.
Et là, bonjour, je me présente, je m'appelle Simon, je veux m'inscrire à votre école, voici le plan de match.
Mais tant mieux, en
et
tout
là,
cas.
Montré que tout était bien commencé, j'avais déjà une partie de classe 1 de fait en examen, j'avais ça, j'avais trouvé le dossier médical, J'avais vraiment monté un dossier qui montrait que je pouvais faire le travail comme un autre.
Oui, puis quelque part, ben, tu sais, ça repousse encore les limites un petit peu plus. C'est petit peu par petit peu qu'on arrive à faire en sorte que la société comprenne les capacités des gens en situation de handicap et surtout comprenne que souvent la personne handicapée, elle est handicapée parce que on nous place en situation de handicap. C'est pas notre corps le problème. c'est la société qui n'est pas adaptée. En tout cas, bon succès. J'espère vraiment que ça va se rendre au bout de cette histoire-là, Simon Desmaux.
Ben là, moi, il me reste 3 semaines de cours pratiques. Je m'en vais chercher ma classe 1 officiellement. Fin août, je devrais avoir terminé tous mes modules avec le DEP en poche. Puis par la suite, septembre, c'est le temps de se trouver un employeur, les stages, et on embarque dans le cheminement d'un emploi dans le domaine.
Lâchez pas!
Ben, merci beaucoup!
C'est jour de match! On est ambivalent, hein? On veut une victoire du Canadien ou on veut avoir la chance de repêcher Lafrenière? On était quand même content quand Petrie a marqué samedi.
C'est au Québec, il fait pas froid, il fait fret, c'est de même parce que c'est de même. Pis c'est bien correct, on a de la place en masse. Pis nos face à face, on les fait sur la glace. Alors on lasse nos pattes, pis nos gars, c'est comme Maurice. On glisse dans l'arène avec la haine de la défaite et le feu dans les yeux. En fait, quand on veut, on peut gagner.
En des temps si lointains que les Franco s'appelaient Canadiens, à une époque où l'époque était faite de crottins, on leur réunit des hommes dont le destin commun est comme un film sans fin.
En technicolore et tricolore, bleu comme le Saint-Laurent, blanc comme l'hiver, rouge comme le sang qui nous coule à travers. Le corps de l'équipe, c'est le cœur de la nation, et chaque année faut clore avec une célébration.
Ils diront jamais tel quel aux nouvelles, mais le tissu social de Montréal, c'est de la Sainte-Flanelle. Quand il est question de hockey, nous on fait pas dans la dentelle, ok? C'est plus qu'un sport,
c'est une métaphore de notre sort.
C'est ça qui nous ressemble, c'est ça qui nous rassemble. Anglo, franco, peu importe la couleur de peau. Si tu détestes Toronto, le sang qui bouge dans tes airs paraît aussi rouge. Mon parc a les chandails de nos vainqueurs, de vainqueurs qui lutte avec honneur les Canadiens pour une fois rallier tous les Québécois. Vainqueurs, de vainqueurs pour le pire et le meilleur, les Canadiens de Montréal, notre équipe nationale.
Un plan de match qu'on respecte à la lettre. Un gardien alerte,
des bonnes mises en échec,
des passes drettes sur la palette, puis des lancers précis et secs. C'est comme ça qu'on va gagner nos épaulettes.
Mais quand ça va mal, quand on calme ou on débile, que je vois être pas un sale quitter le pont du navire. C'est pas un matin qu'on accroche nos patins.
Franchement,
franchement, ça franchit sans plancher.
Allez-y les habitants, quand vous la mettez dedans,
y'a un petit peu de nous autres là-dedans.
On est debout avec vous, on ira jusqu'au bout durant la saison. C'est toute la nation qui vibre au même diapason.
Comme quand les gens criaient qui, qui. C'était en dépit du combat constant de la vie.
Ça leur donnait des forces, ils pouvaient pomper le dos.
Voilà la mort, c'est un aliment réussi.
On peut gagner, on peut plus que participer. Nous on peut gagner. Soir on fonce sur la patinoire pour gagner. Si on se défonce pour la victoire, on va gagner, on va gagner.
Enfin on fait les séries, fini les folies. Le Sébastien et Rififi, Boston, Philadelphie. Avec les pantons du forum, on n'a pas peur de personne. Chaque homme donne le maximum pour que cette année soit la bonne.
Au printemps la fièvre est universelle. Puis il y a juste une place où la classe, il faut pas qu'elle dégèle. Ici le sang c'est de la sève qui monte jusqu'à nos lèvres. Le cri s'échange dans le champ de ralliement qui s'élève.
Nos chevaliers sont en cavale pour ramener le Graal. À Montréal, le tournoi est un chemin de croix. Parsemé des bois, mais la coupe on y croit comme autrefois. On en a foi, puis si c'est pas cette année, mais comme dirait René, à la prochaine fois.
Québécois,
on va gagner, on peut plus que participer. Nous on peut gagner, à soir on fonce sur la patinoire pour gagner. Si on se défonce pour la victoire, on va gagner, on va gagner.
On passe à Paris, New Zealand, on peut quitter ton ballon, donc elle est pas belle.
souvent, on associe cette chanson, le but, à justement ce chorus, ce Aller Montréal. Mais le texte est incroyable. Si vous connaissez l'histoire du Québec, du Canadien, si vous êtes des amateurs, c'est vraiment, vraiment... Et on sait pas. On sait pas si on leur dit bonne chance ou non, mais en même temps, les gars travaillent pour nous faire plaisir, alors je pense qu'on peut pas cracher dans la soupe. Bon, c'est le 15 avril 2019 que je m'entretenais avec Valérie Delattre, qui, elle, est l'autrice du livre « Handicap, quand l'archéologie nous éclaire ». Elle est archéo-anthropologue à l'Institut national de recherche archéologique préventive. Nous avions du temps aujourd'hui et vous conviendrez avec moi que c'est un sujet assez intriguant et qui vieillit bien. Alors, qu'est-ce que l'archéologie préventive? C'est drôle ça, de l'archéologie préventive.
Ça veut dire qu'on intervient en amont des travaux. Quand ils construisent un parking, le TGV, on intervient avant.
Ouais.
Donc on fait de la prévention pour sauver le patrimoine.
Bon, l'archéologie du handicap, est-ce que c'est une discipline, disons, que vous inventez un peu malgré vous? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui se spécialisent là-dedans?
Alors, en fait, c'est une discipline qui s'inscrit au sein d'une discipline scientifique beaucoup plus vaste qui s'appelle la paléoanthropologie, l'étude des maladies du passé. Et en fait, c'est une discipline qui est un petit peu pionnière. On n'est pas nombreux à s'intéresser à ce fait. Et en fait, moi, j'ai commencé à m'y consacrer pleinement parce que j'ai rencontré un champion paralympique. Et qui m'a lancé un défi et qui m'a dit « Toi qui t'occupes des squelettes du passé, qui fais revivre les gens qui ont habité nos ancêtres, c'était comment leur vie quand ils étaient handicapés, amputés, etc. Est-ce qu'on les sacrifiait, est-ce qu'on les tuait ?» Et en fait, on ne savait pas.
Je veux juste m'assurer du bon titre. Ce que l'archéologie nous apprend sur l'histoire du handicap, c'est bien ça?
Voilà.
OK. Et je présume que c'est disponible encore ou...
Bon. Sur Amazon, sur Google, on peut trouver, je viens d'écrire un petit ouvrage là-dessus, pour montrer comment le passé peut éclairer nos comportements actuels. C'est-à-dire pas donner des leçons sur les bonnes pratiques, comment on fait pour inclure, faciliter l'accessibilité ou autre, mais comment il peut éclairer nos façons de faire. Et c'est tout à fait intéressant.
Vous savez s'il est disponible en format audio, par hasard?
Pas encore.
Pardon.
Il est sorti il y a juste quelques mois et donc comme il a reçu un bon accueil, la maison d'édition envisage de le faire et traduire en anglais et probablement de faire un format audio.
Ben, tant mieux. Est-ce que dans le cadre de votre travail, vous trouvez beaucoup d'ossements qui portent des traces de handicap ou ça dépend des époques?
Alors, ça dépend des époques. Alors, bien évidemment, toutes les époques, on a incinéré les défunts. On n'a pas du tout accès aux ossements et donc aux pathologies osseuses. Donc, une partie des Gaulois, une partie de l'âge du bronze nous est totalement illisible. En revanche, on a accès à toutes les lectures ostéologiques. Et bien évidemment, il faut imaginer qu'on est en phase directe avec les techniques chirurgicales, les techniques d'orthopédie. Et par exemple, un footballeur à l'heure actuelle qui se casse le tibia et le pyroné. Sa fracture, elle est réduite, il va être plâtré quelques mois et après, il court comme un lapin.
C'est vrai.
Jusqu'au Moyen-Âge, on ne sait pas réduire une fracture. Et donc, l'os se ressoudait de façon anarchique et c'était source de handicap. On pouvait boiter et être lourdement handicapé pour une simple fracture. Donc, vous imaginez bien que nos cimetières et nos nécropoles sont remplis de gens qui sont bossus, qui ont des problèmes de vertèbres, qui boitent. Et
ils étaient majoritaires.
Le handicap est très, très... Et puis toutes les pathologies liées à l'âge, vous imaginez. Et donc le handicap est très présent dans les communautés du passé. Ce n'est pas quelque chose qui est atypique et qu'on éloigne. On est tous handicapés en puissance parce qu'une chute de cheval, une chute d'escalier, et on pouvait risquer de boiter ou d'avoir un membre ankylosé, paralysé.
Donc le
handicap est très présent.
Donc si l'on présume que c'était des sociétés qui réussissaient à s'adapter bon an, mal an, est-ce qu'il y a des preuves de cela?
Déjà, il y a toutes les opérations. Imaginez une trépanation. Trépaner un crâne au néolithique. Alors maintenant, au XXIe siècle, on le fait toujours parce que le cerveau est comprimé contre l'os, etc. J'imagine qu'au néolithique, on devait penser qu'il y avait des esprits malfaisants dans la tête et qui donnaient des migraines. Eh bien, on trépanait au silex. Vous imaginez, il fallait une bonne pharmacopée ou connaître les champignons hallucinogènes pour le patient.
Ouais, ouais.
Les amputations. au néolithique, 5000 ans avant notre ère, on ampute quelqu'un qui a la gangrène. Mmh. Donc, ça montre bien l'intérêt que l'on porte aux membres de son groupe. On essaye de les sauver, on les aide pendant leur convalescence, et puis après, on peut les appareiller, par exemple. On retrouve des prothèses dans les tombes.
Mais moi c'est drôle, je n'ai jamais pensé à ça, mais lorsqu'on regarde les monuments qui sont toujours debout, ou que ce soit des colisées, est-ce que l'on voit, plutôt que des marches, qu'on travaillait avec des rampes d'accès, ou parce que justement, ils étaient si nombreux à avoir des difficultés peut-être à monter des marches?
Alors, les temples égyptiens sont souvent équipés avec des rampes. Le temple d'Hatshepsut, ce ne sont que des rampes. Il y a très, très peu d'escaliers. Alors, je ne sais pas si ça a été construit dans l'intention de favoriser l'accessibilité. Je ne sais pas si en termes d'architecture, des églises, des abbayes ou des châteaux ont travaillé avec de l'accessibilité. Mmh. On devait surtout développer une grande entraide entre les hommes. Une entraide de proximité dans la famille, dans la paroisse, dans le village. On se portait, on fabriquait des cannes, des espèces de corbeilles pour transporter quelqu'un qui ne pouvait plus marcher, des premiers fauteuils roulants. Je pense qu'il y a une accessibilité humaine, à défaut d'être technique et matérielle, qui est beaucoup plus importante parce que autour de soi, on devait voir, nous on appelle ça des déglingués ou des corps différents, en grand nombre. Et regardez les tableaux dans les musées, regardez les chapiteaux des abbayes, les murs des temples et des tombeaux égyptiens, vous verrez plein de corps différents, avec des bosses, avec des membres atrophiés, avec des poliomyélites. Moi, j'ai fait une visite au Louvre récemment, les tableaux, les vases, les sculptures, les personnes différentes sont partout.
Mais Valérie Delattre, comment savoir, et je sais que c'est votre métier, mais justement, aidez-nous à comprendre, comment savoir si, disons, l'os a été atrophié par un accident ou une malformation ou par le temps?
Alors, c'est très lisible sur l'os. On voit tout à fait la dégradation, par exemple, d'un corps dans un certain sédiment ou avec les racines des arbres, etc. La lecture sur la surface de l'os, elle est totalement différente. C'est vraiment l'apprentissage du métier d'archéologue. La dégradation du temps sur les matériaux, l'os est un matériau comme les autres, elle est extrêmement lisible. En revanche, des traces d'outils au silex ou des traces d'outils en métal sont extrêmement lisibles. Et pour le coup, moi, archéologue du funéraire, je fais le diagnostic qu'il y a quelque chose qui est anormal et après je fais appel à un médecin qu'il peut faire, lui, le diagnostic rétrospectif et me donner un nom sur la pathologie. Et auquel cas, eh ben, on mutualise nos disciplines, on travaille en collectif, et on arrive à se comporter comme le ferait un médecin à l'heure actuelle, qui aurait un patient muet, hein, pour le coup, qui ne pourrait pas dire là où il a mal, mais c'est vraiment extrêmement lisible sur l'os. Évidemment, on n'a accès qu'au handicap qui laisse une trace sur l'os.
Visible, oui. Si l'on remarque plusieurs types d'ossements qui témoignent d'un handicap généralisé, est-ce que dans les outils, on a trouvé également des instruments qui pouvaient servir à, modifier ou aider des gens qui avaient des besoins particuliers ou c'est...
Ah ben bien sûr.
Oui, okay.
Alors on va trouver tous les instruments chirurgicaux, déjà, pour pouvoir travailler sur l'os. On a des trousses de médecins depuis l'Antiquité, avec des scalpels, avec des scies, avec des trépans.
Et ça, on en a?
Ah oui, on en a.
Ah oui, okay.
Par exemple, des trousses de médecins de l'Antiquité et de chirurgiens, il y en a plein à Pompéi. Et on a encore les coffres en bois ou en cuir avec toute l'instrumentation. Ah oui, oui. C'est conservé au musée de Naples. On a Ambroise Paré, qui est un très grand orthopédiste de la fin du Moyen-Âge en France, qui travaillait sur les champs de guerre, les champs de bataille. On a ces instruments. Donc, tous ces instruments-là, on les connaît. Donc, c'est les instruments des praticiens. Et puis, on a, dans les tombes, les appareillages. Comme je vous disais, on a des cannes, on a des attelles, on a des prothèses, on a tout un tas de c'est très, très ingénieux. Hein. C'est les gens qui inventent ça pour leurs proches, parce qu'il n'y a pas de catalogue d'orthopédistes, prothésistes qui circulaient. Donc, le forgeron, etc., celui qui fabriquait des armures, eh ben, était inventif et arrivait à fabriquer des appareillages compensatoires pour ceux qui étaient handicapés.
Un peu comme les exosquelettes aujourd'hui.
Voilà, tout à fait.
Est-ce qu'on a une idée, parce que bon, on parle d'une majorité, donc on peut présumer que aujourd'hui on qualifierait une société ouverte, alors que j'ose même pas dire ouverte, c'était presque la norme. Et là, tout à coup, lorsqu'on étudie certaines périodes de l'histoire, on se rend compte que la personne handicapée est reculée dans les cuisines, qu'elles n'ont plus d'emploi, qu'elles sont presque soit honteuses, ou qu'est-ce qui s'est passé?
Mis à l'écart. On a l'impression que le siècle des Lumières, aux alentours du XVIIIe siècle, on a voulu bien faire, c'est-à-dire qu'on a regroupé les personnes handicapées, les aveugles entre eux, les sourds entre eux, les fous, entre guillemets, avec tout ce que ça recouvrait, ce terme de fou. Et en fait, en voulant bien faire, en les regroupant pour les éduquer, eh ben, on les a exclus du champ du quotidien. Et en fait, ils sont regroupés par pathologie et on ne les a plus dans la paroisse, dans la famille, dans la rue ou dans le village.
Mais en fait,
on a l'impression que ce tournant-là, de l'éducation, du regroupement, de la science, qui a fait que ce qui était banal, qui était empirique, pragmatique, eh ben, c'est devenu quelque chose de compliqué, une prise en charge.
Mais en même souvent, on entend, on va terminer là-dessus malheureusement, mais souvent on entend des gens qui démarrent ces institutions-là comme étant des gens qui ont été touchés parce qu'ils voyaient que ce soit nécessiteux, des quêteux, des gens qui étaient vraiment désavantagés parce que la société les avait mis de côté déjà avant le...
Pas forcément.
Non?
Tout part d'un bon sentiment. C'est-à-dire aider son prochain, souvent sous couvert de la religion. Hein. Quelle que soit la religion, l'aide et l'assistanat sont vraiment au cœur des préoccupations des pratiquants. Et puis, il y a eu la science. Quand on a mis dans les cases, quand on a mis les animaux, etc., qu'on a travaillé sur l'évolution, celui qui était différent, on ne savait pas trop dans quelle case le mettre.
Ouais.
Et puis après, il y a eu l'industrialisation. Il fallait se réaliser par le travail en usine. Quand on était handicapé, ben on était forcément à la marge, on devenait une bouche inutile. Mmh. On devient une bouche inutile quand le climat ne va pas, quand il y a une guerre, etc., etc. Et là, ça devient très compliqué pour les personnes handicapées. Et moi, je dirais que c'est vraiment les tournants 18e, 19e qui font que les choses qui sont banales, sur lesquelles on ne s'interroge pas, c'est empirique, eh bien, deviennent des problèmes, comme elles sont à l'heure actuelle.
Ouais.
Et puis, il y a eu les problèmes du XXe siècle, Action T4 avec les nazis, etc., où vraiment le handicap est devenu un point mort dans la société.
Oui, tout à fait. En tout cas,
C'est pour ça que le passé, il doit nous éclairer. Moi, j'aime bien ce mot d'éclairage, pas nous donner des leçons, mais nous dire, tiens, depuis Néandertal jusqu'à les Gaulois, les Gallo-Romains, puis dans tous les pays, parce que là, moi, je vous parle essentiellement d'Europe, mais il y a une archéologie du handicap en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, des tas de peuples qui ont su composer avec les personnes qui leur étaient différentes. Et donc, je trouve que c'est pas inintéressant de se dire, et nous, dans nos sociétés civilisées, comment on se comporte? Est-ce qu'on est meilleur? Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que, toutes ces problématiques, elles font vraiment résonance avec nos comportements et je trouve que c'est très, très riche d'idées.
Oui, et c'est intéressant.
Réflexion.
C'est intéressant de voir que parfois, de bonnes intentions arrivent
Exactement.
À certains résultats plus ou
Exactement.
Moins positifs. En tout cas, moi, j'ai hâte de mettre l'oreille sur cette œuvre que ce que l'archéologie nous apprend sur l'histoire
Super.
Du handicap. Valérie Delattre, merci beaucoup, beaucoup.
C'est gentil de m'avoir appelé. Je vous remercie. Bonne journée.
D'ailleurs, j'ai appelé OSQLA samedi pour en faire la demande. Ils vont l'enregistrer. Bonne semaine, tout le monde!